Le sprinkler.
C'est bonjour, Sarah.
Bonjour.
Salut, ça. Salut, ça. Content de te rencontrer. Tu es notre première invitée aujourd'hui au Agile Tour. C'est vraiment super le fun d'être avec toi. Puis, ben, on le voit peu, mais on est sur site présentement.
Oui.
Donc, vous voyez l'entrée du Agile Tour. C'est juste qu'on est en pleine conférence. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de gens.
On espère que la prochaine invitée, il va y avoir plein de monde partout qui vont se promener. Puis,
juste pour le déconcentrer.
Juste, oui. Juste faire des babayes à tout le monde pendant que. Sarah, on va parler de ta conférence qui s'intitule « Vers un avenir durable, l'entreprise régénérative en action ».
Oui,
donc, exactement. La question évidente, de casser.
C'est toujours la première question d'Éric, de casser.
Tu voulais pratiquer ton québécois, mais voilà, de casser.
Re-bienvenue.
Tu sais ce que ça veut dire, de casser?
Ben oui, c'est quoi, en fait? Ça, quand même...
C'est une blague.
Ça, quand même, ouais.
Donc, ouais. C'est quoi pour toi une entreprise durable et régénérative?
Mais en fait, c'est la raison pourquoi je voulais apporter ça ici surtout, c'est que, tu sais, on se retrouve un peu dans un, mais pas un peu, là, vraiment beaucoup, dans une espèce de virage. Tu sais, il y a beaucoup de, on commence à parler beaucoup de virage écologique, de transition écologique. Puis on le voit beaucoup autour du produit, autour de l'électricité, autour. Donc, il y a un côté un peu environnemental qui est associé à ça.
Ouais.
Mais on oublie que, basé sur ça, il y a aussi toutes les différentes valeurs qui sont changées. Tu sais, il y a une transformation, en quelque sorte, sur comment tu commences à faire les affaires. The way you do business, en quelque sorte. Et donc, c'est en train de re-questionner des différents modèles d'affaires qui existent aujourd'hui, qui nous ont rendus dans l'état où on est actuellement. Donc, l'invitation autour de vers un avenir durable et l'entreprise régénérative, c'est de connecter les gens avec un avenir possible où l'entreprise peut... is leading, en quelque sorte, la transition.
OK.
Donc, par la manière qu'ils font les affaires, les transactions, la manière qu'ils interagissent avec leur écosystème.
Okay.
On peut le voir aussi avec il y a une montée, tranquillement, là, il y a une montée de B Corp à Montréal ou partout à travers le monde.
Qu'est-ce que tu dis B Corp?
B Corp, c'est une certification d'entreprise
qui
assure vraiment un équilibre autour de ESG, donc tout ce qui est environnemental, social et gouvernance.
Mm-hmm.
Et donc, ils prônent beaucoup l'équité en termes à l'intérieur de l'entreprise et c'est vraiment leur façon de fonctionner. Donc, ce n'est pas juste le produit extra qui en sort, mais c'est la manière que la gestion est faite, la manière que les décisions sont prises, dans quel contexte et tout. Donc, c'est vraiment revisiter, en fait, l'entreprise et donner une certaine vision, une direction qui est basée sur des valeurs plus durables. Et la raison que je voulais apporter ça ici à la Agile Tour, c'est que ben, l'agilité, ça fait plus de 10, même 20 plus
ans
que 20
ish,
ans,
ouais,
20 ans-ish, qui existe. Puis s'il y a une chose qu'on a beaucoup appris, c'est transformer. Puis je sais pas si on l'a vraiment maîtrisé.
Pas tout le temps,
pas
en tout
cas. Ouais.
Work in progress.
Mais c'est ça, c'est toujours un work in progress. Puis trouver des façons de s'améliorer. Puis, tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qu'on peut prendre du... en fait, de l'expérience de la transformation agile pour indiquer et apprendre dans la nouvelle vague de transformation, la transformation d'entreprise vers un avenir durable. Et ça, c'est basé sur des principes régénératifs, donc différentes valeurs. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et l'agilité en soi, de la manière que moi je le vois, c'est une façon de naviguer le complexe.
Oui, effectivement.
La volatilité, l'imprédictibilité.
Ouais, l'ambiguïté.
L'ambiguïté. Et beaucoup de nos entreprises aujourd'hui sont encore basées sur des modèles de prédictibilité.
Ouais,
oui.
Donc, je le vois vraiment comme l'agilité étant un moyen pour supporter la transition écologique parce qu'il va falloir qu'on expérimente. On va être dans un milieu de terrain inconnu. Il y a des fondements qui sont très anciens, dans le sens sur comment est-ce qu'on peut...
La productivité et tout ça.
Oui, mais aussi encore plus anciens. Donc, les valeurs régénératives, si on parle des peuples autochtones, je veux dire, eux, ils ont été gardiens de cette terre pendant...
des milliers d'années, ouais.
Eux, ils savent.
Avant le manifeste à juge,
ouais, je pense que oui. Ouais.
Ben oui, plus de 5000 ans, encore plus, surtout mm-hmm. sur nos terres ici.
En Amérique du Nord.
Exactement, en Amérique du Nord, mais partout, ouais, en fait. Ben oui, là, ben oui. Depuis l'humain est en mm-hmm. existence, on a su comment prendre soin de nos terres, puis on s'est perdu un peu dans les dans les
ébauches. On a fait un petit croche, là.
Pas mal de petits croches. Donc, comment est-ce qu'on peut réintégrer ces valeurs-là en organisation?
Okay.
Et être capable de faire, justement, être en relation d'affaires qui est plus saine pour la planète. Parce que pour l'instant, on se tire dans le pied.
Je vais vous poser une question parce que je l'ai dans la tête, oui, mais oui. C'est ça, on sort un peu du cadre de l'agilité, mais c'est trop fort pour moi. Quelle est ta position sur les, c'est quoi le nom? Les crédits verts.
Ah.
Les crédits verts, donc
taxe carbone, toutes ces patentes-là. Ouais.
Taxe carbone, oui, mais vraiment des entreprises qui achètent des crédits dans le but de pouvoir polluer.
Oui, ça, en fait, tu sais, pour moi, je le vois comme étant un last resort, mais vraiment, c'est la dernière chose que tu veux faire.
Okay.
C'est vraiment, tu as tout essayé, là, tu sais. Puis, il y a des parties que c'est en lien avec la transition. Donc, si, par exemple, tu as une matière première que... actuellement, tu as une matière première qui est très polluante. Si je prends, pour exemple, il y a une compagnie à Singapour qui travaille dans la construction. Donc, c'est du béton.
Mmh. Ça fait glamour, hein, du Singapour.
puis le béton, ça dégage énormément de gaz à effet de serre. Là, aussi, dans sa production, là, exact, c'est ça qui est tough.
Exact, parce qu'il y a de la cuisson. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait de la cuisson.
Brûle souvent des pneus là, pour alimenter le four. Tu sais.
Aussi, oui, donc okay. il y a des entreprises comme ça que... Eux, ils ont comme réalisé, parce que là, surtout, il y a pas mal plus de contraintes environnementales que le gouvernement commence à poser. Là, ça commence, là, tu sais. Donc, ouais. Singapour commence vraiment à mettre des normes, des réglementations et des trucs comme ça.
Mm-hmm.
Mais si je prends l'exemple de cette entreprise-là, parce que ça dépend de leur niveau de maturité aussi. Donc, celle-là a commencé juste parce qu'il va y aller avoir une taxe carbone. Donc, ils se sont dit « shit, il faut vraiment qu'on
fasse plus le choix d'agir parce que nos bénéfices sont impactés si on ne fait pas quelque chose now. »
Exactement.
C'est l'approche burning platform, là, tu vois, pour voir avancer.
Ouais. Exactement. Tu fais face au feu, là. Tu n'as comme pas le choix.
Exact.
Puis, en fait, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est implanter du AI pour être capable de parce qu'il y avait tellement de cuisson à faire pour essayer. Donc, comment... Je ne suis pas experte de béton, hein?
on s'attend à un cours sur comment faire du béton, s'il vous plaît.
Je vais annuler mes 8 questions.
C'est bon. Pas toutes, là. mais la manière qu'ils m'ont expliqué, c'est que pour différentes utilisations de béton, il va y avoir différents types de cuisson ou des trucs comme ça qui vont être utilisés.
Okay.
Mais pour essayer de trouver la bonne recette, il faut que tu fasses beaucoup d'expérimentation.
Essai-erreur,
ça crée beaucoup de waste. C'est beaucoup de charbon pour brûler, pour générer le four, pour après ça. Tu te retrouves tout dans cette chaîne-là. Fait que là, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est optimiser.
Ouais.
Donc, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle...
Ils vont sur ChatGPT. Je vais faire du ciment.
Ils ont pris la data, en fait, puis ils ont réussi à trouver les meilleures recettes à travers tout ça. Puis là, c'est vraiment plus soutenable. Et de cette façon-là, ils ont réduit leur émission de 50%.
Quand même.
Donc, c'est énorme.
C'est massif.
Donc, souvent, ce qu'on voit, surtout au début, ça commence par de l'optimisation. Ça commence par vouloir être face. C'est comme ça par tout changement. Là, c'est
un problème,
quand t'es devant une falaise que là, t'es comme « shit, faut que je saute ». c'est vraiment quand t'as pas le choix. Et donc, c'est une valeur d'affaires d'optimiser. Mais là, une fois qu'ils ont optimisé, là, il faut qu'ils commencent à réfléchir sur, ben si on veut, peut-être changer aussi, puis commencer à explorer différents types de matériaux qui sont moins... Donc, là, tu commences dans l'expérimentation, puis ils font du R&D, on the side, des trucs comme ça. Donc, il y a toute cette approche-là qui... Tu sais, pour revenir à ta question par rapport à les crédits qui...
Ouais.
Quand tu commences par optimiser. Ouais. Si tu as optimisé ton système au max, tu n'as encore pas trouvé la solution qui va être mieux, ben là, peut-être, vas-y. Là.
Mm-hmm.
Mais ça ne devrait pas être d'emblée. Parce qu'on l'a vu surtout cette année, il y avait dans l'Ouest canadien, il y avait beaucoup de terres et de forêts qui ont été dédiées à les crédits carbone. Donc, c'était supposé être des sinks, là, mm-hmm. qu'ils appellent. Et bien, elles sont toutes parties en flammes.
Mm-hmm. Oups.
Fait que je pense pas que c'est quelque chose qu'on peut s'ancrer. Exactement, pas du tout. Parce que ça demande que notre climat est restable. Puis on sait que avec les, ça va juste varier encore plus.
C'est une assumption qui est fausse en partant.
Très fausse. Donc, vaut mieux commencer à regarder sur qu'est-ce qu'on peut faire dans notre petit chez nous, dans le pouvoir d'influence, avant de commencer à donner ça à d'autres personnes.
Okay.
Ce que je verrais, par exemple, qui pourrait être intéressant, c'est justement des gens qui veulent avoir des fonds pour protéger leur territoire pour pas qu'ils soient développés. Mm-hmm. Là, ça pourrait être... Mais encore, c'est last resort. Ouais.
Mais revenons
à ta conférence.
À l'agilité.
Qu'est-ce
qui se passe avec l'agilité? Moi, je suis, mettons, un scrum master de deux équipes.
On avait un danseur en background. Pour ceux qui l'ont vu... C'est terminé. Je
vais le voir quand je vais éditer. Je peux le couper. Qu'est-ce que je disais? Oui,
agilité.
Je vais à ta conférence, je suis allumé, solide. Ouais. Non pas un burning platform, mais par une vision et un purpose qui est tellement meilleur.
Ouais.
Qu'est-ce que moi, je peux faire comme individu dans ma grosse compagnie d'assurance pour entamer quelque chose? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Comment je le fais?
Mm.
As-tu des idées?
Oui. En fait, c'est un atelier. Fait que c'est vraiment une exploration où les gens ils peuvent explorer eux-mêmes qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur sphère de conférence. Parce que moi,
tu l'as déjà donné l'année passée?
Non. Cette conférence-là, oui, je l'ai déjà donnée à Singapour.
C'est le moment de leur souligner un autre. En fait, c'est qu'on est tous un peu jaloux.
Singapour, Berlin, Verdun.
Je t'inquiète.
Donc, qu'est-ce qui a sorti de ces ateliers-là?
En fait, moi, j'étais surprise de la réaction de l'atelier parce que tout le monde est comme « Wow, c'était le meilleur atelier! » J'étais comme « Wow! » Tu sais, donc, j'étais vraiment surprise sur l'impact. Sur l'impact des gens parce que c'est atelier super interactif. Donc, moi, je suis pas là...
Tu peux prendre le temps de le décrire si jamais, si tu veux.
Parler. Mais en fait, ça commence par un atelier d'immersion pour comprendre les systèmes vivants. Okay. Et les gens sont debout, sont en train de connecter. Et ils commencent à... C'est pas conceptuel, c'est vraiment vécu dans le corps, avec l'intellect, le tout est senti.
Oui.
Et ça crée des connexions qu'on n'est pas habitué d'avoir en temps normal, dans n'importe quelle autre formation.
Ouais.
Et un des gros, comment dire...
Takeaway?
Des gros problèmes qu'on voit, c'est que les gens sont déconnectés d'eux-mêmes, de la nature, de...
Même à l'intérieur de l'entreprise, on ne voit pas ce qui se passe à côté.
On voit pas ce qui se passe. Puis là, dans cet atelier-là, les gens connectent, puis... Il y a de la magie qui se passe là-dedans. Il y a des flamèches qui se passent. Et ils réalisent en sortant... J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit... J'ai réalisé tellement le pouvoir que j'ai. T'sais, on se retrouve souvent victime de nos circonstances, de de notre environnement, de « Ah, oh, ben tu sais, c'est le boss. » Oh, ben, non, non. Comment tu réagis?
Ouais.
Les choix que tu vas faire dans le futur, l'avant, les prochains pas que tu vas faire... Ça va faire une grosse différence.
Okay.
Et tu as cette agence-là. Puis on a tendance à oublier qu'on a cette agence.
Cette capacité, ce pouvoir-là.
Exact, de prendre ces décisions-là.
Tu dis de moi en anglais, agency.
Ah ouais, c'est vrai.
En français, agency, c'est l'autodétermination.
Oui, voilà. Ouais,
wow,
voilà.
Bravo. Ouais,
ouais. La capacité.
Quand même.
Ouais, merci.
ChatGPT me l'a dit.
T'es vraiment rapide, j'ai même pas vu. Fait que si je participe à ton atelier, dans le fond, je vais prendre un peu conscience de ça. Puis pour revenir à la question d'Éric, ça veut dire que. À ma petite échelle, à moi, qui va retourner dans ma compagnie d'assurance ou de je ne sais pas quoi, je vais commencer à le faire vivre, puis peut-être même commencer à l'entamer, transformer mon entreprise en entreprise un petit peu plus régénérative. Puis...
Oui, mais ce n'est pas nécessairement juste avec l'entreprise, c'est aussi
dans individuellement, ton milieu,
individuellement,
ma famille,
être capable de parler aux gens avec « Ah, tu sais, qu'est-ce que vous faites? Vous en pensez quoi de tout ça? » Juste des questions comme « Vous pensez quoi des crédits carbone? » Tu sais, on en parle pas nécessairement. Surtout dans un milieu autre ou familial, des trucs comme ça. Là, donc,
dans un milieu professionnel, on va mettre le focus sur qu'est-ce qu'on doit livrer demain matin.
C'est ça. On ne pense pas nécessairement à comment on livrer et l'impact que ça va avoir sur l'environnement.
Okay. Là, j'en veux plus. Là. je suis Scrum Master de 2-3 équipes. Je suis en rétro, ouais. Puis j'aimerais que la rétro focus là-dessus, par exemple.
Mm.
Je fais, on fait quoi? Comment? J'aimerais que, tu sais, on fait des rétros tous les deux semaines. C'est pas grave si on parle pas du produit ou du processus. Ou
une fois, on peut bien se permettre de déraper un petit peu. Là.
À tous les 8 ou 9 rétros, on focus sur notre environnement, le contexte, ouais. et comment qu'on peut nourrir le concept que tu présentes lors de la conférence.
Mm-hmm.
Comment que je pourrais faire ça?
Mais c'est vraiment une vision écosystémique. Oui. Donc, une approche que j'utilise beaucoup, c'est le ecosystem mapping. Donc,
ecosystem mapping.
Oui, donc c'est la cartographie de ton écosystème. Il y a des gens qui... Tu sais, on dirait un mind map. Et en fait, c'est d'être capable de regarder soit à l'intérieur de l'organisation. Donc, il y a différents niveaux que tu peux faire ça. Tu peux faire ça en tant qu'individu. Donc, regarder ton monde intérieur. C'est quoi mes valeurs? Mm-hmm. C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit en tant qu'individu? Puis là, regarder un peu plus à l'extérieur, mais c'est quoi les différentes? Donc, c'est comme des nodules là, que tu peux écrire. Là.
Oui.
Puis après ça, tu as l'exemple ton travail, les différents aspects au niveau de ton travail. Puis là, ce qui est plus riche, je trouve, c'est de commencer à mapper la qualité des relations
entre ces systèmes-là.
Entre les différents systèmes. Donc, par rapport à ton stress, est-ce que c'est... Est-ce que... Puis tu peux utiliser différentes...
Couleurs.
Tu sais, un gros trait noir que c'est...
Ça, c'est là, tough.
Travail, c'est ça.
Ça nuit.
Ou quelque chose de jaune qui te nourrit. Ouais. Tu sais, des trucs comme ça. Et c'est beau de la façon que c'est visuel. Tu vois directement ce qui ressort puis les différentes frictions qu'il y a dans ton écosystème.
Puis on pourrait le faire individuellement puis après ça, en équipe, commencer à se le partager aussi, puis essayer d'en créer un commun.
Ensemble,
là,
ouais. Okay. Oui. Donc, c'est intéressant d'avoir des perspectives individuelles parce que tout le monde apporte leur propre lunettes à une situation, leur propre angle à une situation.
Ça peut être bien différent dans certains cas.
Exactement.
C'est bien correct.
Ouais. Et ce que je trouve, comme récemment, j'ai fait pour un client, justement, c'est un groupe d'exécutifs. Et ils travaillaient, des ultra performants. T'sais, ils sont vraiment bons à travailler dans leur stream, dans leur responsabilité.
Mm-hmm.
Mais collaborer, c'était pas vraiment dans leur vocabulaire. Mais tu sais, c'était très transactionnel.
Ouais.
C'était pas, il y avait pas d'émergence, d'opportunité, de trucs comme ça. Et on a fait une retraite de 2 jours avec eux pour justement commencer à tisser ces liens-là.
Mm-hmm.
Puis c'était fascinant de voir à quel point il y avait des endroits qu'ils pouvaient optimiser ou qu'ils pourraient tweaker ou qu'ils pourraient vraiment travailler pour accélérer soit leur croissance ou soit leur... Donc, être capable de regarder un niveau écosystème. Puis quand je parle, vous pouvez choisir les différentes boundaries.
Les
frontières.
Les fronts, merci.
Les limites.
Les limites, les frontières. Mm-hmm. Ça pourrait être à l'intérieur de l'organisation, mais ce que j'inviterais les gens, c'est de commencer à intégrer l'extérieur de l'organisation.
Oui, c'est comme donc, la pensée systémique extreme.
Ouais.
La pensée systémique de l'organisation, là, tu inclus la nature autour.
Oui, exact, exact. Parce que ton écosystème, tu navigues, en fait. On fait partie de la nature. On est la nature, mais on l'oublie. On pense que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous.
No companies on island.
C'est drôle parce que cette semaine, j'étais au bureau puis je travaille dans une compagnie productrice d'électricité au Québec. Donc, comme il y en a plusieurs, on ne sait pas c'est laquelle. Puis il y avait une conversation.
Encore des éditions à faire.
non, c'est correct. C'est très positif, il n'y a pas de problème. Mais on était dans une conversation où la gang qui s'occupe de l'environnement venait présenter aux gestionnaires de projet parce que, tu sais, bon, hydro est quand même globalement de l'énergie verte.
Ouais.
Et là, on commence à calculer sur les projets l'impact parce qu'il n'y a pas juste la production d'électricité là, qui est là-dedans qu'il faut qu'on considère vert, mais on se rend jusqu'à, OK, si on fait déplacer les gens au bureau, ben c'est quoi l'impact? Parce que là, c'est des fois plusieurs centaines de personnes qui doivent se déplacer au bureau. Fait que, au net, est-ce que la compagnie est verte? C'est en train de se calculer. Donc, ça me connecte là-dessus parce que quand on parle écosystémique, là, on sort juste de, OK, notre petit cadre, nous, on produit l'électricité, celle-là est verte, mais OK, mais pour le faire, bien, faut qu'on fasse de la télécom, faut qu'on fasse du développement. Ça roule sur des serveurs. Est-ce qu'on continue à être vert au net? Ouais. Bien, c'est des questions qui se posent
aujourd'hui. La manière qu'on code, est-ce que c'est une façon
optimale
pour générer moins d'électricité, par exemple, des trucs comme ça?
Exact.
Donc, il y a des conversations qui commencent à se faire.
Exact. J'avais un autre point controversé, puisque c'est le fun.
Oui,
nous,
Ton Québécois est revenu. C'est génial.
Une fois de temps en temps.
Il ressort, c'est
parfait. Nous, petits Québécois ou petits citoyens, on doit faire plein d'efforts pour pouvoir respecter nos environnements. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens haut placés un peu partout qui, à coup de 10 000 avions, se rendent à la COP 28 pour parler de l'environnement. Pour nous aider d'arrêter de prendre l'avion. Je l'ai vu passer à quelque part, ça.
Ben, c'est la présidente de la FTQ. C'est une petite controverse en ce moment au Québec. Là. Pendant que les syndicats sont en grève, la présidente de la FTQ a décidé d'aller à la COP 28.
Oui, ça, c'est une question d'image, parce qu'il y a d'autres choses. Là, mais oui, j'ai l'impression qu'on en demande beaucoup aux citoyens normaux, mais que les citoyens d'une autre couche sociale ont des privilèges que nous, on n'a pas, qu'eux continuent à faire des choses. Ton point, ton angle là-dessus, ce serait quoi?
Mais je veux dire, l'éveil, en fait, de l'impact qu'on a, ça se fait à tous les niveaux. Tu sais, que ce soit... Je trouve ça vraiment intéressant, les mots que tu as utilisés, le petit individu et des gens qui ont plus de pouvoir. C'est comme si eux, ils ont plus de pouvoir que l'individu, mais l'individu a quand même beaucoup, beaucoup plus de pouvoir qu'il pense. Donc, il y a comme... J'essaierais d'éviter de ce côté... Je comprends les réalités de la chose.
Ouais.
Et en même temps, si on continue ce narratif-là, on va jamais se rendre nulle part. Là, ouais. Donc... Il y a aussi un éveil qui doit se faire à ce niveau-là, au niveau des gestionnaires d'entreprise, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir d'influence sur comment est-ce que l'organisation est gérée. Donc, c'est pour ça que je travaille, le travail que je fais, il se fait à tous les niveaux. Et comme n'importe quelle transformation agile, ça « it starts with the top », en quelque sorte. Ça commence avec une stratégie qui doit être mise au sein de l'organisation qui intègre justement des nouvelles, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de... souvent, les entreprises pour lesquelles je travaille dans beaucoup de banques, c'était souvent pour optimiser et réduire les coûts. La raison pour laquelle on faisait les transfos agiles.
Ouais.
Pas quelque chose qui était très inspirant. par contre, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une grande banque qui, eux, intégrait, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes ESG pour...
L'actionnariat, là, faire en sorte qu'ils sont considérés comme un investissement vert, en fait, probablement.
Exactement, mais aussi de réglementation dans le niveau bancaire en termes de reporting puis de rapports de compte.
Fiscal, comptabilité, puis tout.
Exact. Et eux, ils étaient dans une discussion sur mais comment est-ce qu'on intègre justement ces nouveaux items qui rentrent dans le backlog et comment est-ce qu'on va structurer. Puis en même temps, on est en train d'avoir une conversation au niveau de la restructure de l'organisation. Puis si on commence à penser à comment on structure une organisation, c'est par les flux de valeurs. Les valeurs, on peut les faire en termes de département, des trucs comme ça. Et ça a pris je peux pas vous dire, là, des conversations vitamines pour essayer de faire comprendre aux gens. OK, oui, c'est peut-être plus facile de faire un département ESG sur le côté, mais en bout de ligne, c'est transversal. Donc, on fait comment? Donc, c'était vraiment intéressant de voir ces espèces de je reviens à la boucle de notre perspective, comment nous, on voit le monde, un gros impact sur les décisions qu'on prend. Donc, si on voit le monde comme étant ségrégué, des petites boîtes, il n'y a rien d'interconnecté et prédictible, ben là, c'est certain qu'on va prendre des décisions qui sont reliées à ça parce que ça fait le plus de sens dans ce monde-là.
Avec nos lunettes à nous.
Par contre, on sait, et surtout avec la pandémie, je pense que ça l'a réveillé pour beaucoup de gens. C'est volatile, c'est complexe, tout est interconnecté. Donc, quand tu es en train de créer des flux de valeur, il faut interconnecter les flux de valeur. Il faut pas, oui, il faut avoir des channels, mais comment aussi est-ce que tu peux les interconnecter? Et faire ces réalisations-là, c'est intéressant parce que les gestionnaires, ils me parlaient, ils disaient « Wow, ça change toute ma vie, ça, je sais pas. »
Ben oui, bienvenue en 2023.
Mais c'est ça.
C'est ma retraite dans 5 ans. Peux-tu, s'il vous plaît, garder le statu quo?
Ouais,
il n'est plus acceptable, malheureusement, le statu quo.
Oui, mais là, tu te retrouves, encore pour dire à Singapour, il y a beaucoup de gens, justement, à la retraite, qu'eux, ils ont fait... leur carrière dans le monde corporate, que là, ils se retournent puis ils veulent tout investir dans tout ce qui est vert, des fonds impact, des trucs comme ça. Je dis, ah, OK, tu veux te reprendre pour toutes les années.
C'est ton purgatoire.
C'est ça. Donc, tu sais, le côté éveil, le chemin est individuel. Ça commence par nous à essayer d'ouvrir nos œillères, là, mm-hmm. ou d'enlever nos œillères, puis commencer à regarder le monde de façon différente. Et, mm-hmm. et c'est la beauté, en fait, des systèmes complexes ou des systèmes vivants, c'est que c'est très fractal. Donc, la minute qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur de toi, ta perception sur le monde, ça change la manière que tu es en relation avec les autres, ça change en façon que tu es en relation avec ton écosystème au complet. Mm-hmm. Je veux dire, quand moi, je suis tombée dans le bassin de l'agilité, ça a chamboulé ma vie. Moi, je pensais qu'il fallait que je trouve quelqu'un, j'achète un appart. J'avais tout comme...
ton plan de vie était fait jusqu'à ta retraite.
Puis là, quand je suis rentrée dans le monde de l'agilité, puis en plus, ben, j'ai travaillé chez Pixis aussi, on était dans une phase où on explorait l'entreprise libérée. Donc là, ça questionnait plein d'autres trucs aussi. Et
ça date de longtemps. Oui.
De longtemps, exact, exact. Mais en même temps, ça m'a re-questionné la manière que je voyais le monde. Mm-hmm. Et ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Donc, ouais. Donc, pour répondre à ta question... C'est ces gens-là en haut, c'est leur responsabilité.
We have the power.
On a le pouvoir, puis tu sais, il y en a plein là, qui ont commencé à partir de leur organisation, qui créent des mouvements, tu sais, mm-hmm. qu'il y a une émergence, un bouillonnement un peu similaire au début de l'agilité, mm-hmm. qui est en train de se commencer avec le monde de la transition, surtout ici au Québec. Là, mm-hmm. Je sens, ça se passe à Singapour, mais je sens beaucoup plus prêt à l'action ici, juste dans les deux semaines que je suis revenue.
Ça fait juste deux semaines.
Ça fait juste deux semaines que je suis rentrée à Montréal.
Puis de ce que je comprends, c'est que pour toi, cette transformation-là, l'agilité, ça devient, tu le mentionnais plutôt un peu, une espèce de moyen pour faciliter cette transition.
C'est juste que ça donne un but et une direction tellement plus puissante, en tout cas pour moi, mm-hmm. qui m'éveille d'une façon viscérale. Tu sais, c'est pas, je suis pas en train de faire ça pour gagner de l'argent,
faire plus de bénéfices
faire plus
dans
de
une
bénéfices,
banque,
puis être plus efficient. Non, on le fait for the sake of, mm-hmm. tu sais, puis pour les générations futures. Tu sais, je vais pouvoir regarder à mon enfant ou mes neveux, nièces, savoir que j'ai essayé de tout faire dans mon pouvoir pour essayer de leur donner un futur. Mm-hmm. Puis les beaucoup de traditions autochtones parlent des 7 générations. Les décisions que tu fais aujourd'hui, tu dois commencer à penser. Puis on a tellement été programmés pour un court-termisme, surtout en entreprise.
Ben, on revient, je prends ma retraite dans 5 ans, moi je veux juste... Je veux que l'entreprise survive là, puis qu'elle fasse des meilleurs.
Mais la nouvelle génération qui savent.
On veut l'investissement pour nos investisseurs aussi. Ouais. C'est le contraire pour nos shareholders.
Ouais, mais ça génère toutes des conversations. Comme il y a une banque qui a commencé récemment, ça fait peut-être 7-8 ans, aux États-Unis, qui est la première banque régénérative, qui justement doit avoir des conversations comme ça avec ses investisseurs pour dire ben ton retour.
Il est
ça
sur
va
cette
être,
génération. Là.
Ben oui, ça va être tes petits-enfants
tes
qui vont être
casés.
Puis là, l'ego, il commence à travailler. Puis là, c'est comme non, mais moi, j'ai mon argent dessus.
Je vais prendre ma retraite.
Je vais mettre mon argent là. Je vais prendre à l'inverse. Tantôt, Mathieu, tu disais que l'agilité est un beau moyen pour. Amener une entreprise à découvrir l'aspect régénératif.
Ouais.
On prend à l'inverse. Quand on fait des transformations agiles où on utilise toutes sortes de pratiques, d'outils, des valeurs, des principes du manifeste, mais qu'est-ce qu'il existe dans l'écosystème de l'entreprise régénérative que nous, on pourrait voler pour l'utiliser dans notre transformation agile classique? Une valeur, un principe, un outil. Tantôt, tu as parlé du mind map. Déjà là, c'en est un, je pense. Hein? L'éco-map.
Je dirais une approche plutôt systémique là, à la transformation. Déjà là, ça, c'est
déjà... On est déjà là, je pense.
Ouais. On flirte, on essaye.
Je dirais aussi une approche plutôt collaborative à la transformation. Donc, c'est être capable de créer le chemin ensemble. On le sait, là, que forcer du changement sur les gens, ça ne fonctionne pas.
Ouais.
Ça crée juste plus de résistance. Donc, comment créer un mouvement pour être capable
avec le purpose que tu disais tantôt versus le burning platform. Là.
C'est ça. Ouais. Donc, aligner les gens autour d'une raison d'être qui anime les gens. et de le faire d'une façon, de le structurer d'une façon qui est très collaborative. Puis j'ai eu l'opportunité quand j'étais en mandat à Singapour, dans deux des cas, d'être capable de co-créer le nouveau design de la structure organisation et aussi l'implémentation. Et donc, c'était l'idée, pas par
les execs.
En fait, c'était l'idée par les execs. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y avait un certain niveau d'éducation, d'explorer, OK, voici vos contraintes, voici votre sandbox qu'on va dessiner pour vous. Et maintenant, avec ça, vous explorez. Puis c'est sûr qu'on était là en tant que guide là, pour les aider à explorer. Puis on a réussi à créer un programme dans l'espace de 3 mois, ce qui est super rapide.
À ce niveau-là, oui, mais pour super une grande entreprise. Rapide,
hein. C'est ça. Et c'est intéressant parce que, tu sais, au lieu de dire aux gestionnaires de le faire, puis de ce non, c'est eux, OK, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il y avait déjà, ils sentaient la responsabilisation puis l'ownership de, parce que c'est eux qui ont pris les décisions, ils sont capables de défendre leurs décisions parce qu'eux, ils ont passé.
Ils croient vraiment.
Ils croient vraiment. Puis, il y a une affaire, je pense, qui est clé, c'est de savoir que ceux qui sont maîtres de leur contexte sont les mieux placés d'être capables de prendre des décisions pour leur contexte. Ouais. Parfois, c'est juste une question d'être capable d'illuminer ou de démontrer différentes approches, pratiques.
Ouais.
Mais la clé, c'est vraiment connaître le contexte. Donc, moi, je me vois souvent comme étant un space holder ou quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, un peu comme une sage-femme, je suis comme moi.
L'image n'est pas mauvaise, en fait.
Accoucher de quelque chose. Hein?
Mais pas juste ça, c'est dans la création, là, tu sais, dans la.
Sur ce bout-là, on n'en parle pas.
Non, mais la tu sais, le avant qu'il sort le bébé, en quelque sorte, donc cette nouvelle structure ou cette nouvelle approche au travail ou des trucs comme ça, il y a un côté de création d'émergence, formation, là, tu sais.
Et pas mauvais. Ça surprend un peu comme image, mais l'image reste quand même bonne.
Oui, exact.
OK.
Ouais, c'est drôle, souvent, je donne l'image de. Pour démontrer l'agilité à son état le plus pur, je dis, regardez l'arbre chez vous. Un arbre, là, c'est l'exemple parfait d'agilité.
Il va s'adapter.
Il va s'adapter au contexte 4 fois par année, probablement, et puis, puis ça dure des années, puis des années, puis des années, puis des années.
Ouais.
Fait que l'agilité, ça n'a pas commencé il y a 20 quelques années. Ça fait depuis toujours.
Ben oui. En fait, les valeurs ou les.
Mais.
Non, il n'y a pas de. Mais je crois que ce que j'ajouterais à ça, c'est oui, en effet, ce côté d'adaptation à son contexte, le côté. Mais des fois, en agile, on l'oublie.
Oh, des fois?
Souvent, très souvent. Ou soit ça, ou on a une perception très biaisée de notre contexte.
Oui.
C'est ça qui, en fait, empêche, on a la difficulté à regarder les choses en face. On préfère éviter ou mettre sous le tapis, éviter le conflit pour être capable d'adresser vraiment le contexte qui est vraiment en face.
Et souvent, ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est une croyance fondamentale. Ouais. Et puis, c'est normal qu'on fonctionne de cette façon-là.
Ben, puis parce qu'on vise, tu sais, on n'a pas une approche systémique nécessairement tout le temps. Fait que là, on vise que juste être plus productif, disons. Fait qu'on va biaiser nos adaptations là-dessus. Mais
c'est normal qu'on fasse 22 tests différents pour aller chercher le béton qu'on veut. C'est la façon de fonctionner. Il n'y a pas d'autre façon. C'est la croyance fondamentale, c'est ça.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui arrive et dit
« Peut-être.
Maybe not. »
On ne l'a pas exploré. on n'a pas inculqué puis il y a une partie que, on peut dire que c'est lié à l'éducation, comment tout est prédictible, mais il y avait une recherche qui a été faite, ça fait longtemps, j'ai pas mes sources exactement, mais sur les genius. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, il y avait un chercheur, je pense que c'est dans les années 60, qui a étudié, en fait, qu'est-ce qui fait, un chercheur de la NASA, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant devient un génie, en fait.
Ouais.
Et le niveau de genius ou de génie dans les enfants de moins de 3 ans était énorme.
Ils n'ont pas de contraintes.
Ils n'ont pas de contraintes. Ils sont dans l'exploration, sont dans la déconstruction, l'émergence, tout. Et le plus qu'ils sont éduqués, le plus qu'ils vont à l'école, le plus que leur niveau de génie descend drastiquement.
Mm-hmm. On a shapé leur pensée. À
oui.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est une façon qu'on construit notre éducation de Donc, quand tu dis « c'est normal », je dis ben, « c'est quoi normal, un? » Deux.
C'est pas nécessairement correct. C'est normal.
Mais, normal, ouais, c'est comme on a normalisé quelque chose qui est pas bien. Là, où on a tellement été exposé à ça que l'on ne le voit plus.
C'est devenu la moyenne. T'sais, normal, ça veut juste dire que c'est la
ça.
Moyenne.
C'est ça. Donc, nourrir ou ignite.
Allumer
ouais. l'espèce de curiosité, d'apprentissage continu, de toujours se poser des questions. Il y a des gens qui vont parler du growth mindset. Mais moi, je dis la curiosité, c'est la clé à tout. D'être capable de justement nourrir cette. Ah, mais comment est-ce que je pourrais.
Pourquoi qu'on fait ça de même?
Qu'est-ce
qu'on voulait faire, donc, au départ? Je sais plus.
Exact, exact. Puis on le tue, ça, dans plusieurs de nos contextes. On l'écrase, on ne veut pas l'entendre. Tu dis, ah, t'es donc méga sans, là. Qu'est-ce
trop
que
long.
Tu fais? Ouais, c'est trop long.
Je vais faire un clin d'œil. Elmo, on a déjà parlé.
Ben, on est.
c'est un acronyme pour Enough, Let's Move On. Je ne sais pas si tu savais. Puis des fois, t'es dans
On est plus confortable à vivre un échec en suivant le processus. À ce moment-là, on peut blâmer le processus, c'est pas de ma faute, que risquer un succès en essayant quelque chose de nouveau.
C'est la déresponsabilisation.
C'est la déresponsabilisation.
Total.
Je suis accountable pour livrer quelque chose en suivant tel processus et je vais respecter mon côté imputable de ça.
Sinon, c'est la moitié de recette qui n'a pas marché.
C'est pas ma faute.
C'est ma faute si le poulet n'est pas cuit comme du monde. Puis dans le fond, à travers ton atelier aujourd'hui, les gens vont vivre un petit moment de curiosité puis de laisser tomber là, ces barrières-là puis d'essayer de le vivre pour vrai. Là,
ça serait quoi, selon toi, les takeaways que tu t'espères que les gens vont avoir à la fin de l'atelier?
J'espère les illuminer d'une nouvelle perspective et qu'ils réalisent en fait la capacité qu'ils ont à prendre action.
Okay.
Dans leur environnement.
Mm-hmm.
Et ils vont sûrement en sortir aussi avec différentes, à travers l'expérience, en sortir avec différentes outils qu'ils vont avoir maintenant de plus dans leur sac Mary Poppins.
Est-ce que c'est filmé?
Il y a un atelier,
il y a des salles qui le sont. Là, mettons, nous, elle avait la capacité de l'être filmée, mais elle n'était pas.
OK. Ah. Merci, Sarah.
Merci beaucoup. C'est rafraîchissant de commencer cette journée-là avec toi.
Ben Sarah est de retour à Montréal. Il faut le redire. Les gens qui veulent te contacter.
Oui, sur LinkedIn.
LinkedIn.
Sinon, j'ai mon site web qui est toujours en anglais. J'ai pas. Ça fait juste 2 semaines que je dis.
C'est correct. T'as même pas besoin de t'excuser. C'est bien correct.
L'Office de langue française.
Ah ben au moins, je suis pas une compagnie de plus de 25 personnes.
Non,
je t'inquiète. Donc, cultivatingwholeness.space. Vous pouvez avoir des informations là. Mais sinon aussi, n'importe quand, vous pouvez... moi, je suis ouverte à un café. Je suis contente d'être de retour. Donc, si les gens sont intéressés par le sujet, n'hésitez pas.
Avoir plus de détails, comment conduire un atelier, des choses comme ça, on peut t'écrire.
Sur un atelier ou sur, tu sais, qui sont intéressés à en apprendre plus sur les entreprises régénératives, qu'est-ce que ça veut dire, par où commencer, tout ça, définitivement. Puis aussi, s'ils veulent expérimenter plus avec le côté écosystème ou des ateliers comme ça aussi. Avec grand plaisir.
Cool. Un immense merci d'être prêt au jeu.
Bon atelier tantôt.
Merci.
Salut.
Merci.
Salut.